Radioscopie, Frédéric Dard,
Jacques Chancel. Frédéric Dard, le complice, l'ami, l'écrivain et puis surtout le prêteur de mots. Des mots inventés lorsqu'il manque et un personnage devenu tellement célèbre qu'il fait l'objet de tests très sérieux, ce personnage, San Antonio. Lorsqu'on vous compare, vous son père, Frédéric Dard, à Céline, à Rabelais, à Cervantes, parce que j'ai tout entendu, hein. Alors cela vous fait plaisir, cela vous fait rire, mais vous devez finir quand même par y croire.
Absolument pas. Ça, alors, la main sur le cœur.
Sur le cœur, vraiment.
Sur le cœur, vous voyez, je mets ma main sur le cœur. Et je peux vous donner ma parole d'homme sur la mémoire de mon père, et je ne plaisante jamais avec ce genre de choses, que ça me laisse absolument sceptique. Je reste dans les lointains. Je trouve que ce sont des délirades comme ça, journalistiques, mais moi...
Oh, pas seulement journalistiques, universitaires. Et vous le savez,
oui.
On a fait des thèses, enfin, sur vos livres.
Je sais, mais ça ne me touche pas, parce que c'est comme si je ne me sentais pas concerné. Je veux dire que j'ai écrit, poussé par... Je ne sais pas, il y a une impétuosité, comme vous savez, l'eau en Islande qui jaillit du sol, toute bouillante, alors tout bouillant, la prose jaillit de moi. Mais je ne suis pas plus orgueilleux de ça que ne doit l'être la terre d'Islande qui laisse aller ses eaux chaudes. Non, c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors qu'on la compare, qu'on compare ma prose à tel ou tel autre illustre, tant mieux, merci, bravo à votre bon cœur, mais ma prose n'est que ma prose, ou elle est ma prose, et puis c'est tout. Quoi.
Mais quelle est votre littérature préférée? Vous lisez quels auteurs?
Mais je vais vous dire une chose, j'ai lu beaucoup, et je lis de moins en moins. J'ai de moins en moins parce que j'écris de plus en plus. Et que quand on est devant une feuille blanche et qu'on noircit cette feuille blanche pendant toute une journée, on arrive à une espèce de saturation. C'est-à-dire que les mots, au fond, maintenant, je suis un égoïste et je les garde pour moi. J'utilise les mots, et les mots des autres, il faut qu'ils soient bougrement bien ficelés pour m'atteindre.
Les lectures des autres vous gênent?
Elles ne me gênent pas, mais quelque part, il faut d'abord, je suis difficile à saisir. Pour m'avoir, entre guillemets, hein, vous comprenez dans quel sens je le dis, pour m'avoir, il faut vraiment se lever de bonne heure, il faut vraiment mettre le paquet. Et bien, ça arrive, hein, j'ai des coups de cœur, j'ai des choses qui me saisissent, qui me mobilisent. Mais de plus en plus difficilement, parce qu'encore une fois, je suis tellement plein de ce que je fais que lorsque je viens de m'en vider, je suis exténué. Et alors, je ne sais pas, je regarde la télé, j'écoute de la musique, je classe des papiers, je fais un peu de correspondance, ce qui est encore une façon d'écrire. Mais c'est tout.
Vous vous donnez en tout cas toutes les libertés.
Ah, je me donne toutes les libertés.
Vous n'hésitez devant rien.
Non, parce que je considère que ça, pour moi, d'après mon optique à moi, ça ne vaut pas le coup de me manifester, ça ne vaut pas le coup d'écrire si c'est pour écrire comme les autres, même si c'est très très beau, même si c'est pour faire du Montaigne. Vous comprenez, j'ai pas envie de faire du Montaigne. Ça tombe bien, direz-vous. Mais j'ai pas du tout envie de faire du Montaigne, j'ai pas envie de faire du Stendhal, j'ai pas envie de faire du Voltaire. J'ai envie de pas non plus de déconner, car au fond, c'est pas tellement du déconnage. Si on regarde attentivement ce que je fais. Mais j'ai envie de laisser aller ma nature, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de déguster ma prose.
Vous êtes gourmand, hein, de ce côté-là.
Ah, je suis, oui, je crois, je suis très gourmand.
Frédéric Dard, je voudrais savoir, tout petit, vous aviez déjà un dictionnaire de mots dans la tête?
J'avais plus qu'un dictionnaire de mots, j'avais toute une littérature déjà. Je crois que très très tôt, en fait, je veux pas passer pour un enfant surdoué, un enfant prodige, pas du
Peut-être,
tout.
Peut-être, mais on ne le savait pas.
Mais on ne le savait pas, on le saura jamais. Mais je veux pas non plus conduire les enquêteurs sur une piste comme ça. Je voudrais simplement dire que j'ai toujours eu envie d'écrire des histoires. Depuis mon plus jeune âge, depuis que je suis conscient, j'écris, j'avais envie de fabuler, d'inventer. D'inventer des personnages, d'inventer des situations, des personnages, des climats, et puis c'est tout.
Je ne me souviens plus, vous avez quelques diplômes?
Aucun, j'ai mon certificat d'études.
Avec mention quand même.
Assez bien.
Assez bien, très bien.
Parce que en calcul mental, j'ai eu zéro. À l'époque, il y avait une épreuve de calcul mental. Et je me défendais comme les autres quand c'était en classe. Mais à partir du moment où j'avais X secondes pour répondre à une question de la marchande qui va à les œufs, etc., alors là, ça me faisait tellement tarter que brusquement, c'était le black dans ma tronche. Et terminé, je disais, ah, puis merde, non, bon, tant pis, je réponds pas.
Vous allez encore de temps en temps dans votre village d'enfance?
Bien sûr.
C'est tout déjà?
C'est dans le Dauphiné. Oui. C'est à Bourgoin-Jallieu, qui s'appelait que Jallieu à l'époque. C'était deux villes tellement proches que ça n'en faisait qu'une, mais chacune tenait à son identité. Et puis, la raison l'emportant, elles ont fini par se jumeler, enfin, plus que jumeler, par se souder. Elles l'étaient déjà virtuellement. Et ça s'appelle maintenant Bourgoin-Jallieu. Alors oui, j'y vais, j'y passe chaque fois que je vais de Suisse à Lyon.
Vous avez une maison ?
Non, j'ai pas de maison.
Vous avez
place ? J'ai pas une place, j'ai mieux que ça, j'ai un bistrot.
Un bistrot, oui.
Il y a une plaque sur ma maison natale, et en face de cette plaque, s'est ouvert un café qui s'appelle le San Antonio, en caractère gigantesque. Et de temps en temps, enfin, quand je passe, je donne rendez-vous à des copains, c'est assez rare d'ailleurs, et je bois un coup de blanc de mon pays au San Antonio.
Aujourd'hui, Frédéric Dard, vous quittez votre Suisse de prédilection, puisque vous habitez là-bas, et vous venez présenter votre petit dernier, c'est un livre qui sort justement aujourd'hui.
Oui.
Une cohorte de pages noircies. La vieille qui marchait dans la mer. La vieille qui marchait dans la mer. Alors on s'attend à un San Antonio, comme on le connaît, délirant. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un livre de réflexion. C'est une vieille extraordinaire. C'est une femme tout à fait superbe. Et cette fois-ci, de quoi parlez-vous ? Vous parlez de la vieillesse.
Oui,
comme si, vraiment, l'idée vous était tombée sur la tête et vous deviez vous en sortir. Vous êtes vieux ?
Tout le monde est vieux. Je veux dire que je suis vieux depuis une soixantaine d'années. Parce qu'on est vieux ou jeune mentalement. Je suis peut-être, je veux dire, plus jeune physiquement que moralement. Physiquement, ça va, je me sors, je pète le feu, comme disent les bonnes gens. Mais moralement, j'ai toujours été conscient de ma précarité, donc en cours de vieillesse, ce qui était la vérité d'ailleurs. Même quand j'étais adolescent, je me jugeais vieux. Et je peux vous dire une chose, par exemple, j'ai refait ma vie, comme on dit toujours, à 40 ans, et j'avais l'impression que ça valait même pas le coup. J'ai beaucoup hésité à cause de mon âge, parce que je croyais déjà que j'étais dans l'antichambre de la décrépitude à 40 ans, et que mon Dieu, j'avais plus grand-chose à offrir à ma nouvelle élue. Et je m'aperçois maintenant que je commence à vivre davantage avec elle que je n'ai vécu avec ma première femme.
Et vous lui avez aussi offert une famille.
Et je lui ai offert une famille, bien entendu. Elle en avait fait déjà un petit morceau, étant donné qu'elle avait un enfant. Elle avait baronné, comme disent les camelots, en faisant un enfant qui est le mien maintenant, parce que je l'ai élevé.
Je viens à cette première page de La vieille qui marchait dans la mer, dans votre dernier roman, votre dernier San Antonio. Je vais simplement la lire, parce que c'est une belle description de cette vieille, de cette dame. Elle a quel âge d'abord ?
Elle a 85 ans.
Et vous l'avez vraiment rencontrée à la Guadeloupe ?
J'ai rencontré, enfin, je ne sais pas si la dame que j'ai vue à la Guadeloupe avait 85 ans, mais j'ai vu une vieille dame affublée d'une béquille qui devait souffrir d'une arthrose et qui pensait la soigner en marchant dans la mer. Et elle s'accrochait au bras d'un jeune plagiste beau comme un dieu, superbe, bronzé, avec un petit chignon, une boucle d'oreille, doré sur tranche, les yeux clairs, superbe. Elle s'accrochait à ce bras et elle foutait le camp dans la mer. Et c'était d'une beauté, mais d'un baroque, d'une beauté, cette mer d'émeraude, pour employer les clichés, ce soleil et ce couple bizarre qui s'éloignait, on aurait dit, de loin des échassiers. C'était très, très beau. Et j'ai eu, mais je regardais comme ça se passait jour après jour, chaque jour, j'étais là pour assister à la promenade de cette dame. Et puis, de plus en plus, j'étais gagné. Je me disais, je vais écrire un livre, je vais écrire. Quoi, j'en savais rien du tout. Et puis, tout s'est constitué comme ça, j'ai démarré.
Vous aviez parlé avec elle ?
Absolument pas. Et si cette dame nous écoute, elle sera sûrement très surprise si elle m'écoute et si elle se reconnaît. Si elle dit « Ah, mais est-ce que c'est moi ?» Je lui dis un grand merci parce que je lui dois des moments de qualité parce que j'ai pris un plaisir, un bonheur.
Pas
un
l'inspiratrice.
Plaisir. Ça a été l'inspiratrice, ça a été la déclencheuse, si je peux me permettre.
Oui. C'est un exemple, je crois, heureux de littérature. C'est une manière d'entrer immédiatement dans un livre. Je veux dire qu'avec vous, on ne perd pas de temps, Frédéric Dard. Ce sont vraiment les premières lignes. C'est-à-dire le portrait de cette vieille dame. Lady M, puisqu'elle s'appelle Lady.
Oui, M. C'est une Lady.
Lady M descend lentement le sentier conduisant à la plage. Bien qu'elle s'appuie sur une canne anglaise, sa démarche reste majestueuse. Cet été chromé rend sa silhouette oblique. Elle le plante à chaque pas, avec discernement, soucieuse de toujours faire porter l'embout de caoutchouc sur une surface stable. De son regard intense et pincé, elle sélectionne par avance les points d'appui jalonnant son parcours. Lady M est très âgée. Ses rides profondes font partie d'elle désormais. Elle ne se souvient plus de son corps d'avant. Entre sa somptueuse jeunesse et les méfaits du temps, elle a négocié une sorte d'amnésie qui la préserve des regrets. Elle porte un turban blanc sur sa chevelure platinée. Bien qu'elle descende vers la mer, elle est fardée comme pour une soirée de gala. Et tout de suite, on a envie de suivre cette femme. On est Lambert, le plagiste.
Oui.
On a envie de la suivre, vous l'avez suivie.
Ah, je l'ai suivie, on peut dire, enfin, jusqu'au bout, quoi, parce que c'était une aventure. Et je veux dire que j'ai réglé des comptes moi-même avec ce que je connais déjà. Et là, c'est ce que je pressens de l'âge. Ça m'a permis d'étudier. Enfin, ça ressort un peu de la gériatrie, quoi, ce que j'ai fait, parce que c'est une espèce d'étude qui s'est imposée à moi et dans laquelle j'ai fait passer les vieilles de ma vie. Il y a eu des vieilles dans ma vie. Il y a, tout azimut, quoi. J'ai eu des vieilles dans ma famille, et puis j'ai eu des vieilles, j'ai rencontré des vieilles, j'ai même eu des liaisons avec des vieilles, et tout ça, je me suis aperçu, constituer une espèce de matériel, si j'ose dire, en parlant d'un livre, de matériel qui m'a servi, que j'ai injecté dans le livre.
Mais ça vous démangeait, ce sujet ?
Il ne me démangeait pas, mais il est venu. Il me démangeait sûrement, mais j'en savais rien. Mmh. Un sujet, on le découvre en l'écrivant. Je veux dire que s'il y a des sujets qui vous taraudent un peu, on dit, tiens, j'écrirais bien. On est surtout taraudé par ses propres souvenirs qu'on a envie de raconter. L'homme a besoin de se mettre à jour, de redorer sa vie un peu en la racontant. Là, ce n'est pas le cas. Mais à partir du moment où j'ai démarré, j'ai senti tout ce que j'avais à dire et tout, et ça me venait spontanément, et le comportement de cette vieille femme qui est restée sensuelle, qui est restée en appétit d'amour, qui malgré le renoncement.
Mais vous avez besoin à chaque fois, Frédéric Dard, d'un sujet de réflexion pour vos livres. Vous pouvez vous laisser entraîner simplement par le burlesque, par le baroque, par les mots.
Mais oui, mais au début, quand j'ai commencé ce bouquin, il y avait cette image de cette dame âgée qui marchait dans la mer au bras d'un plagiste. Ça, c'était l'image de départ. Et quand j'ai décidé d'en faire un livre, partant de cette image, je voulais écrire un livre cocasse. Je voulais écrire l'histoire d'une vieille bonne femme, une vieille dame indigne, une vieille arnaqueuse, car au fond cette femme est une aventurière qui continue à 85 ans à plumer ses semblables, à faire chanter des gens,
les pigeons, mais jamais le même.
Oui, jamais deux fois le même. On ne plume qu'une fois le pigeon. Et puis elle décide brusquement qu'étant vieille sans enfant, elle va se donner un dauphin. Et elle jette son dévolu par un concours de circonstances que je n'explique pas, je veux pas
sur ce beau garçon.
Sur ce beau garçon, elle veut le former à l'arnaque. Et moi, ça me paraissait porteur, si j'ose dire. Je me disais, je vais me régaler, je vais des situations extravagantes. Je voulais écrire un livre truculent, un livre cocasse. Et puis ça s'est mis à déraper, et je me suis enfoncé dans une espèce d'étude de caractère, de leur rapport, et puis surtout cette vieille à tout jamais inassouvie. Tout jamais, qui convoite ce plagiste, elle va même jusqu'à l'installer dans son lit, à lui demander de dormir avec elle, et il se plie à ce caprice, et il dort avec elle, sans la sauter, mais il dort avec elle, et il y a de plus en plus, et il finit par être amoureux d'elle. C'est lui qui est peut-être au fond le plus amoureux des deux.
C'est San Antonio qui signe ce livre.
Oui.
Alors, quelle est la différence entre San Antonio et Frédéric Dard ?
Mais écoutez, le temps passant, il n'y a aucune différence. Je veux dire que ça veut dire quoi ? Disons, c'est mon pseudonyme, c'est le pseudonyme de Frédéric Dard. Comme avant, j'écrivais, j'avais bien réparti, j'écrivais des bouquins signés San Antonio, oui. dont j'avais un peu honte au début, parce que, oui. c'était assez mal vu, c'était un peu... Et donc, j'avais une autre partie de mon œuvre avec un H majuscule, que je signais Frédéric Dard et qui était de meilleur aloi, croyais-je. Oui. Et puis petit à petit, bon, ça a été le secret de Polichinelle, on a su que San Antonio c'était moi. Alors je vois pas pourquoi je vais continuer à être bicéphale, étant donné que c'est la même chose.
Alors pour vous, la difficulté, c'est le sujet, car c'est quand même une œuvre de création, et d'autre part, vous êtes engagé par contrat à livrer beaucoup d'ouvrages.
Oui.
Combien ? 4 par an ?
5.
5 romans par an.
Oui.
Donc c'est une usine. Et vous travaillez seul.
Oh ben, écoutez, on ne peut pas. Je pense que si on fait
mon
littérature, on ne peut pas travailler en équipe.
Oui.
On ne peut pas avoir de nègres.
Oui.
C'est pas possible. Je veux dire que depuis 36 ans, ça se saurait.
Non, ça je sais, je peux témoigner.
Alors, vous pouvez témoigner.
Oui, tout à fait.
Et je veux dire, vous n'êtes pas seul, parce que des tas de gens peuvent me voir bosser tous les jours, jour après jour. Mais comme je le dis, ça représente 5 pages par jour. 5 pages par jour, pendant 2 mois, ça fait un bouquin. Mmh. Et il me reste même 2 mois pour faire autre chose.
Oui.
De temps en temps, j'écris une pièce pour Rossène ou...
Donc 5 romans par an,
oui.
Qui vous sont demandés par contrat, chaque roman,
qui me sont demandés,
330
oui, par
pages à peu près, donc pas modeste, 300 pages disons.
Oui.
D'ailleurs, vous avez dit que vous écrivez 5 pages par jour.
Oui, j'écris 5 pages par jour. Alors, 5 pages par jour, ça fait à peu près, 150 pages par mois. Attendez, oui, 5 fois 3, 15, 150. Et je mets 2 mois, mais il y a quand même des jours où je vais à la noce à Gégène, vous comprenez.
Il y a des jours où vous n'écrivez pas.
Rarissime. Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis parti de chez moi pour venir à Paris. Je vais passer 2 jours à Paris. 3 jours.
Vous allez écrire à Paris?
Non. Alors, je ne vais pas emporter une machine, étant donné que j'ai des rendez-vous.
Ah, vous n'écrivez qu'à la machine?
Ah oui, ça, il m'est très difficile. Vous voyez, ce livre, je l'ai commencé juste avant... Je suis allé en Indonésie cette année, j'ai passé 3 semaines en Indonésie, et donc j'ai emporté ma machine, parce qu'il n'était pas question de rester 3 semaines sans écrire. Et puis, le sort m'a joué un tour, j'ai pris ma machine sur la gueule en arrivant à Jakarta, elle est tombée du filet quand j'ai... Quand j'ai ouvert le machin à bagages, vous voyez, la machine qui était mal posée, c'est moi qui l'y avais mise, et alors m'est tombée d'abord sur la figure, ensuite dans le couloir central, elle a explosé. Donc, et il n'était pas question de racheter une machine avec un clavier français à Jakarta. Parce qu'il y a une chose, j'ouvre une parenthèse, vous savez, moi, quand j'ai appris à taper à la machine en France, on me disait que le clavier s'appelait le clavier universel. Or, c'est le seul pays, la France est le seul pays à employer ce clavier, même en Suisse, la Suisse voisine, la Suisse française, a un clavier différent du nôtre. Il est vraiment typiquement le clavier universel, né en réalité que français. Alors donc, je n'ai pas pu trouver un autre. Et je me suis remis, comme au bon vieux temps, à écrire à la main.
Vous l'avez fait,
avec bonheur. Je l'ai fait, j'ai pas écrit tout le livre à la main, mais j'ai écrit 3 semaines à la main, que mon épouse s'est empressée de transcrire à la machine, de taper à la machine quand je suis rentré.
Alors Frédéric Dard, aujourd'hui, vous avez pris sans doute l'habitude de ce succès. Lorsqu'on fait les comptes, on s'aperçoit qu'il y a plus de 300 millions d'exemplaires de vos San Antonio. Vous imaginez ce que cela représente, 300 millions d'exemplaires?
Oui, ça me fait de la peine parce que je pense à la
forêt.
Au déboisement des forêts que ça implique.
Oui, toutes les forêts des Vosges, là.
Et
d'ailleurs...
En tout cas, j'espère... étant patriote, j'espère que c'est des forêts nordiques...
Et qui sont lues à travers le monde. Donc, on ne peut pas le prévoir.
Écoutez, l'autre jour, j'étais à Lyon... Et je vais dans une librairie qui est assez connue, qui s'appelle Choc Corridor, je lui fais de la publicité, mais elle le mérite. C'est une immense librairie qui est assez unique en son genre, je crois, même en France, qui possède absolument tous les romans policiers, vous voyez, qui ont paru anglais, américain, etc., bon, en langue française. Et tout ça est classé, répertorié, c'est merveilleux. Et là-dedans, les garçons, des jeunes gars très dynamiques qui tiennent ça m'ont reconnu. Et ils m'ont montré le rayon San Antonio. Et j'ai découvert qu'un San Antonio, pas si vieux que ça, coûte 150 francs. Que le premier vaut 2000 francs. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je l'ai acheté d'ailleurs, parce que oui. Je n'en avais que deux et je voudrais laisser à mes enfants un exemplaire du premier.
Le premier, c'était en 1949.
Oui. Oui.
40 ans l'année
40
prochaine,
ans l'année
en
prochaine.
Même temps que le bicentenaire de la Révolution française.
Ben, j'avais bien calculé mon coup.
Mais très, très bien.
Et alors, ce bouquin, hein, je l'ai acheté et je me suis dit que je dépensais plus d'argent qu'il m'en avait rapporté. Mmh. Je veux dire que la première édition, j'ai du coup touché des clopinettes cintrées. Ça ne s'est pas vendu. On en a vendu 500 exemplaires, oui. Le reste a été bradé, comme ça, soldé.
Alors, tout a marché à partir de quel ouvrage, de quel roman?
Tout a marché à partir du moment où j'ai été pris en main par Armand Caro, le directeur du Fleuve Nord, qui venait de fonder sa maison. Mmh. Alors, j'avais écrit un deuxième bouquin, toujours pour l'éditeur lyonnais, qui voulait en faire une série, mais comme il s'est ramassé la gueule avec mon premier...
il a abandonné.
Il m'a vite remis l'autre dans la soutane, vous comprenez. Et j'avais ça sous le bras, et Armand Caro l'a pris. Et puis quand il l'a lu, il m'a dit, il va falloir faire une série, continuer la série, mais à un rythme. Alors moi, je disais, bien sûr, c'était du dépannage, j'ai commencé à en faire. Et puis après, je me suis mis à faire des pièces de théâtre avec Robert, tout.
Robert, c'est Robert Rossen.
Robert Rossen, pardon. tout marchant, je laissais tomber San Antonio. Et mon éditeur me tirait par la veste en me disant, écoutez, ne laissez pas tomber ça, on va pouvoir aller très loin, je vous jure qu'un jour, on arrivera à 50 000 exemplaires.
Et c'est venu.
Et moi, je disais, mais il est fou, cet homme, 50 000 exemplaires, c'était...
Et aujourd'hui...
C'était 600 000.
Aujourd'hui, chaque livre est tiré à 600 000.
Il m'a donné, il y a 6 mois,
chaque San Antonio.
Il a fait à l'ordinateur, parce qu'il est féru de ça, il m'a donné la planification de tous les bouquins que j'ai sortis.
Le relevé.
Et ce relevé indique que tous les livres ont tiré 600 000 exemplaires par le jeu des rééditions. On n'en fout pas 600 000 sur le marché d'un coup, mais tous.
Il y a combien de titres? Vous avez écrit combien de romans au total? Bon, 300 millions d'exemplaires vendus, mais...
Pas loin de 160.
160, oui.
Plus de 150, je ne sais pas, je ne les compte pas. Vous savez, je ne suis pas du tout un homme de chiffres.
Et votre nom, votre pseudonyme, San Antonio, est venu comment?
Ça, je l'ai dit tellement de fois, mais un jour, un homme très
bien... Non, on ne se souvient pas.
Non, mais je vais vous dire, un type très bien que je cite sans arrêt, hein, et qui s'appelle Jacques Chancel, m'a dit, ne faites pas le péché d'orgueil en croyant que les gens se souviennent de ce que vous avez dit précédemment. Me l'avez dit.
J'y pensais
vous
encore.
Vous me l'avez dit dans une émission, je crois que c'était au Grand Échiquier.
Oui.
Et ça m'est resté. Ça m'est resté parce que c'est la sagesse même. Alors donc, je répète, quand j'ai écrit les San Antonio, je me suis dit, il faut que je trouve un pseudonyme. Je cherchais un nom américain, genre Jacksonville ou Spring Valley ou je ne sais pas quoi. Et je cherchais sur un atlas des États-Unis. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai été fasciné par le mot composé de San Antonio. Enfin, pas composé, parce qu'il n'y a pas de trait d'union. Et je vais vous dire une chose...
Là, il y est, le trait d'union.
Il y est parce que je me suis gouré, alors que bien, comme je suis très farfelu, j'ai écrit après, je me suis dit, je vais prendre San Antonio. Oui. Et moi, j'ai mis... Et par la suite, je me suis aperçu qu'il ne fallait pas, à la ville de San Antonio, où je suis allé d'ailleurs en pèlerinage, je me suis aperçu qu'il ne fallait pas de trait d'union, mais c'est devenu ma coquetterie. Et maintenant, je fais un foin terrible. Quand
il n'y a pas
exemple,
de trait d'union.
Par exemple, quand on m'a envoyé la maquette du livre, il n'y avait pas le trait d'union. Et j'ai gueulé comme un putois en disant « Eh mon trait d'union !»
Ils savent à San Antonio là que il y a Frédéric Dard qui écrit sous ce nom la ville de San Antonio.
Ça, je crois pas, j'ai aucune affinité.
Il faudrait une statue, statue de Frédéric Dard.
Ils n'en ont rien à cirer, vous savez, les choses qui viennent de France, c'est pas leur
ça, c'est un peu vrai. Oui.
Bon, alors, leur verre de Beaujolais.
On peut se demander, Frédéric Dard, s'il y a une recette lorsqu'on a un succès comme celui-là. Je crois que l'on peut dire qu'on ne prévoit pas, qu'on n'espère pas.
Non, on ne peut pas prévoir.
On gratte. On gratte, c'est tout. On travaille.
Oui, exactement. Il faut bosser. Oui. Il faut bosser.
Et il y a cette phrase quand même qui peut vous définir, et vous me l'aviez dit déjà une fois, j'aime écrire, je meurs d'écrire, je suis un halluciné de l'écriture. Alors, c'est encore vrai,
c'est
après
toujours
40
vrai.
Ans d'écriture.
Mais ce qui me stupéfie, et ce dont je rends grâce à Dieu, c'est que je suis de plus en plus un halluciné de l'écriture. Je suis de plus en plus en transe, j'ai de plus en plus envie d'écrire. Je ne sais pas si, parce que le temps me talonne, comme je prends de la bouteille, le temps me talonne et j'ai envie d'écrire, j'ai tellement de choses encore à dire, ce n'est pas grave si je ne les dis pas d'ailleurs, mais pour
alors,
moi...
Qu'est-ce que vous auriez par exemple à dire? Là, vous avez dit, La vieille qui marchait dans la mer, c'est le dernier livre qui part au fleuve noir, c'est la vieillesse. Et c'est vraiment une explication, un récit de la vieillesse ou une peinture de la vieillesse qui est faite mieux que pourraient le faire des gens habitués vraiment à la vieillesse, ou traitant, ou parlant de la vieillesse. Donc, la vieillesse, c'est
oui.
fait.
Alors, oui, mais les autres thèmes, je ne peux pas vous les dire maintenant, ils s'imposeront à moi le moment venu.
Ah, vous ne les avez pas notés sur un petit bout de papier?
Ah non, 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 moi je ne suis pas du tout compilation, non, non.
Ça vient comme ça?
Ça vient. Je veux dire, je sais que je suis lourd de choses à dire, mais sans savoir encore lesquelles. Ça sera la divine surprise, enfin, ou la mauvaise surprise, j'en sais rien, quand je les écrirai.
Et puis, il y a votre manière d'écrire, et elle n'est qu'à vous, parce que ce sont des phrases qui ruissellent. Bon, ce sont les couleurs de la vie, et les couleurs de la vie, elles sont propres, elles sont sales, elles sont tout. Hein. Et là, vous ne vous gênez plus. Vous vous laissez aller complètement.
Non, je me laisse aller complètement, par exemple...
Vous dites même, je fais de la littérature poubelle.
Oui. Oui, parce que je fourre tout dedans. Une poubelle, on y met tout. On y met des choses encore comestibles, on y met des choses qui sont corrompues. Alors, ça ressemble un peu à ça. Je veux dire que c'est là-dedans que je vide, je me vide l'âme, là-dedans, dans ces bouquins. Et aussi dans ce livre-là, il y a aussi une notion taraudante, c'est la notion de Dieu, hein, qui est toujours restée un peu en filigrane dans ma vie. J'ai été élevé chrétiennement, bon, j'étais môme, j'ai eu des moments de doute, de scepticisme même très poussé, de refus, tout ce que vous voulez.
Mais, le suicide même.
Oui, non, mais ça, je veux dire que Dieu n'est pas incompatible avec l'autodestruction, bien qu'il réprouve, paraît-il. Mmh. Mais je ne parle pas de l'Église, moi, je parle de Dieu. Je veux dire que ce n'est pas de l'Église que je vous parle qui me laisse absolument froid. Je la respecte parce que j'ai été élevé dans son sein, quelque part. Mais c'est tout. Mais je veux dire que la notion de Dieu a toujours été faufilée quoi, dans mon existence. Vous voyez, ça a toujours
aujourd'hui
été...
Aujourd'hui encore?
De toujours. Toujours. Il y a par moments des résurgences. Il y a des moments où le ruisseau coule profondément, quoi, comme dans vos Pyrénées, où il y a des ruisseaux qui sont très profonds.
Des gaves.
Et puis brusquement, les gaves. Mmh. Et brusquement, ils ressurgissent. Ben, je crois que, il me semble que la plupart, beaucoup d'hommes en tout cas, ça doivent éprouver ça.
J'ai l'impression, Frédéric Darc, que dans cette fin de siècle, dans ce siècle finissant, vieillissant, vous pourriez peut-être raconter la grande histoire de la politique, c'est-à-dire la folie. Ce monde insensé, vous pourriez l'écrire à votre manière, à la
oui,
manière
mais,
de Saint-Antoine,
oui,
une histoire insensée,
bien,
la fin du
oui,
monde.
Oui, mais je vais vous
ou la
vous
fin
dire,
d'un monde.
Je vais vous dire la politique, l'histoire de la politique. Je risque de la sortir à un moment où elle n'intéresserait plus personne, ouais. Parce que je crois que les
ça
gens
ça vient d'ailleurs.
Ça vient. Ouais. Vous comprenez, les gens, il y a une désaffection. Les gens commencent à s'en foutre. Ils finissent enfin par comprendre que tout ça ne vaut pas tous ces discours, tous ces lances rompues, tous ces affrontements, tous ces vitupérations. Ils savent très bien qu'il faut hausser les épaules.
Alors lorsqu'on réussit comme vous, Frédéric Darc, on se dit il a toutes les chances, il a tous les bonheurs. On oublie qu'on a aussi tout à côté tous les ennuis, vous les avez vécus oui. aussi bien ou peut-être mieux que beaucoup d'autres.
Ah oui, ça,
l'enlèvement de votre fils.
Oui, c'est quand ça même c'était le clou de...
Ça s'oublie?
Non, non. Ça s'atténue, mais ça ne s'oublie pas. Je veux dire que depuis, je suis dans un état de je ne sais pas si c'est une rémission ou une guérison, je veux dire que depuis, je ne sais pas, 7-8 mois, ça va mieux. Ça va mieux. Je veux dire que je n'ai plus la même angoisse que la lézarde que ça m'avait laissé se colmate petit à petit. Ça doit venir de ce que ma fille grandit, tout simplement, et que grandissant, ça me rassure. Elle sort de l'enfance, et donc elle est moins fragilisée.
Elle oublie, elle?
Non, absolument pas. Et c'est ça qui est dramatique.
Elle vous en parle?
Elle en parle peu parce qu'il y a une espèce de loi du silence que nous avions établie, ma femme et moi, enfin, croyant bien faire. Ma femme, surtout, avait dit il ne faut plus lui en parler, il faut la laisser comme ça. Et puis, au bout de quelques années, justement, elle s'est mise à faire des crises de tétanie. Les médecins nous ont expliqué que c'était dû à un traumatisme, donc on savait lequel. Et qu'au contraire, il convenait de lui parler de ça, pour extirper les démons, vous voyez. Mais elle avait l'impression toujours de rencontrer le type qui l'a enlevé dans l'autobus au détour d'une rue, tout ça. C'était, et la nuit, le moindre craquement, elle dort avec un chien, vous voyez, un berger allemand, ce qui est quand même pas tellement normal, je veux dire, un adolescent qui a besoin pour s'endormir d'avoir la présence d'un chien au pied de son lit. C'est quand même triste.
Elle a quel âge ?
Elle a 18 ans.
L'enlèvement d'un enfant, c'est quand même...
C'est monstrueux.
C'est monstrueux.
C'est monstrueux. Je crois que...
Vous avez eu envie de tuer, là ?
Je sais pas. Pourtant, je sais loin de mes pensées, vous savez, le meurtre. Ouais. Il y a eu sûrement des bouffées, surtout pendant l'instruction à laquelle j'assistais. J'ai eu des moments quand le ravisseur parlait de l'enlèvement, vous voyez ? Alors, je sais qu'à un moment donné, j'ai été obligé de sortir du cabinet du juge. Parce que ça me... Je sais pas, je me sentais envie de cogner, quoi.
Ce concerto de Schumann avec Frédéric Odéon pour Joséphine, disons aussi, Joséphine, c'est votre fille.
Oui.
Celle qui a été enlevée, qui est maintenant... qui va mener sa vie de femme bientôt.
Hein. Bien sûr.
Et puis aussi pour Abel.
Ah, Abdel.
Abdel, oui.
Ah, ça, c'est mon petit... Mon rayon de soleil.
Celui que vous avez adopté.
Oui, mon petit noir merveilleux.
Mais c'est une histoire extraordinaire. Je sais bien que nous l'avons déjà raconté ensemble, mais dites-moi comment vous l'avez accueilli la première fois. Parce qu'Abdel, ça, c'est vraiment la rencontre. Souhaitiez adopter.
Oui, ma femme et moi, nous étions à l'aéroport de Genève, à un moment où arrivaient des gosses de la guerre du Vietnam, enfin, saccagés par la guerre du Vietnam. Alors, il y avait des familles qui se trouvaient là pour les héberger. Ils avaient des numéros autour du cou, des hôtesses. Et tous ces gosses avaient, je sais pas, entre 4 et 7 ans. Et ils pleuraient, ils étaient égarés, ils débarquaient dans cet univers. Et brusquement... on se regarde, on se fout à chialer, ma femme et moi, tellement ce spectacle était... et puis ma femme me dit, tu sais qu'on peut en faire autant, qu'est-ce qui nous en empêche ? Et ça a été le déclic. Oui. On a dit, mais bien sûr qu'on peut en faire autant. Elle me dit, écoute, on est libre, on a de l'argent, alors si des gens comme nous le font pas, qui le feraient ? Et puis j'ai dit, mais c'est vrai. Et alors on a fait des demandes, comme ça on s'est adressé à Terre des Hommes, et puis... Un an s'est écoulé sans qu'on n'entende plus parler. On a rempli des papiers, sexe indifférent, âge indifférent, nationalité indifférente, etc. Et on n'entend plus parler. Je me suis dit, bon, bah, peut-être comme nous sommes divorcés, comme je suis un homme mûr, peut-être qu'ils n'ont pas, confiance, ils ont abandonné. Et puis dans l'intervalle, il y a eu ce miracle de l'arrivée de Joséphine. Et Joséphine naît... Ma femme, une bonne patriote, vient la faire à Paris. Et puis, elle avait 14 jours. On rentre, nous habitions Gstaad à l'époque, nous rentrons dans notre chalet, le téléphone sonnait, je décroche, et on me dit, c'est Terre des Hommes, nous avons un enfant pour vous. Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Et alors, moi, sidéré, j'avais cette espèce de trésor, mais incommensurable pour un homme de 47 ans, d'avoir ce bébé dans ce couffin, vous voyez, c'était le cadeau du soir, quoi, c'était fabuleux. Et alors, j'obstrue le téléphone, je dis à ma femme, c'est Terre des Hommes, ils ont un enfant pour nous, qu'est-ce qu'on fait ? Elle me dit, ben, on le prend. Alors, j'ai dit, on le prend, on vient le chercher. Et alors, l'après-midi, nous sommes allés dans une maison à Massonget, dans le Valais. C'est une grande maison. Hein, joyeuse parce qu'il y avait des enfants, mais un peu tristette quand même. Et puis nous arrivons là et nous sommes reçus par une dame qui nous fait asseoir dans un petit salon. Elle nous dit, je vais le chercher, voilà, c'est un enfant, comme ci, comme ça, c'est un noir. Et puis elle va chercher Abdel. Et Abdel était très handicapé à l'époque.
Voilà, je me souviens.
Il avait une maladie, vous l'avez vu, enfin, non, peu de temps après. Il avait une maladie qui lui mettait le menton. Il s'enroulait comme un hippocampe, vous voyez. Il avait le menton qui avait fait un trou dans sa poitrine. C'est vous dire s'il était, c'était soudé, c'était l'horreur au point de vue médical de, par la suite. Et alors, c'est de longs bras, il était rachitique, il avait de longs bras qui traînaient par terre. Et on aurait dit une espèce d'araignée, de je sais pas, c'était quelque chose de tragique.
Il était déjà à vous.
Et il est entré, son regard, j'étais avec ma femme et ma sœur qui se trouvait chez moi, nous avait accompagnés, je me souviens. Et alors, toujours avec ce côté, vous savez, là-bas, c'est l'homme qui importe. C'est, les bonnes femmes, on les regarde après, ils sont vachement... Et alors, le mot m'a vu, il a fait le tour de la pièce, et il est venu s'asseoir sur mes genoux, et je sens encore son bras autour de mon cou, et puis il m'a regardé avec un sourire, c'était fabuleux. Fabuleux.
Et Abdel, aujourd'hui, est devenu un jeune homme.
Alors maintenant, c'est un beau jeune homme. On l'a redressé. Il est bien.
Il a été opéré. Il est parfait.
Il est parfait. Il a de belles rencontres féminines.
Oui, très belles.
Ah oui, ils se vont bien.
Alors, je reviens maintenant au livre lui-même. La vieille qui marchait dans la mer. Vous êtes interrogé pour le titre, d'abord ?
Oui. Pas pour le titre. Je me disais, le titre viendra tout seul. Oui. Et puis, j'en ai eu plusieurs... Alors que j'ai téléphoné à mes éditeurs et puis à Jacques Dartus, mon chargé de presse, qui est vraiment mon complice. Je veux dire, il est plus qu'un chargé de presse.
J'espère qu'il ne vous pardonne rien, lui.
Je ne sais pas s'il me pardonne, mais enfin. Et puis, chaque fois, je leur donnais un titre. Ils me disaient, oui, mais c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être mieux à trouver. Je ne sais pas. Et puis, un matin, j'ai téléphoné, je me souviens... À Jacques, je lui ai dit, à Jacques Dartus, je lui ai dit, la vieille qui marchait dans la mer, il me dit, ah, c'est beau, c'est je sais pas.
C'est vrai que c'est beau.
Il me dit, c'est un beau titre.
Le vieil homme et la mer.
Et puis mes éditeurs, Founigui Ramon, qui est ma directrice littéraire, parce que les choses ont changé au fleuve maintenant. Alors j'ai plus mon Armand de Carreau qui m'a fait. Enfin, je l'ai toujours. Maintenant, il est devenu mon impresario.
D'accord.
et j'ai donc Founigui Ramon qui a marché aussi dans le titre, qui m'a dit oui, ça me paraît bien.
Alors le sujet, nous l'avons dit, Frédéric Dard, c'est la vieillesse, c'est vous délirez à fond sur un sujet dont s'emparent d'habitude des médecins, des gérontologues, c'est le très lamentable, comme on dit, sujet de l'âge, de la vieillesse, du délabrement physique. Surtout du délabrement physique.
Oui.
Parce que la vieillesse n'est pas lamentable.
La cruauté, c'est la décrépitude.
La décrépitude. Mais de Gaulle, la vieillesse, ce naufrage.
Oui, exactement.
Le naufrage de la vieillesse. D'ailleurs, vous l'écrivez bien, cette vieillesse et ce naufrage. Avec une complaisance morose, elle se regarda, c'est toujours Lady M, c'est-à-dire la dame de 85 ans. Avec une complaisance morose, elle se regarda nue dans la grande glace, cruelle, posée contre la porte. Informe et flasque, avec une chair à gros plis évoquant ceux d'un rideau de Seine. Et là, elle parle à ce moment-là. « Seigneur, que sont devenues mes formes d'antan ? J'étais belle comme un violoncelle et désormais je ne suis qu'une ruine. » Les mâles raffolaient de ce corps guetté par les vers. Pas un millimètre carré de ma personne qui n'eût été enduit de salive ou de sperme, cher Seigneur. Et le voilà à l'abandon, pareil à un jardin anglais qui part en friche. Moi, la grâce triomphante, je suis informe à présent, voire même difforme. Vous pensez que quelqu'un de vieux, quelqu'un vraiment complètement abandonné, peut se dire des choses pareilles qui sont quand même difficiles, dures pour soi-même?
Je crois que oui, je crois qu'il existe. Moi, j'ai rencontré des gens très lucides. Les hommes sont peut-être davantage lucides que les femmes dans ce genre de choses parce qu'ils sont moins affectés que la femme par le vieillissement. Ils l'acceptent mieux parce que ça s'exprime d'une façon moins cruelle. Je veux dire que la femme, sa beauté, c'est quand même son capital essentiel. Et donc, les hommes sont, je sais pas... l'accepte mieux. Mais j'ai rencontré des femmes, j'en connais, des femmes d'une grande, grande lucidité et assez implacables vis-à-vis d'elles-mêmes, avec avec des mots qui traduisent leur...
Et ce qui rajeunit votre vieille dame, c'est le bâton de vieillesse que vous lui donnez, c'est-à-dire ce plagiste, ce très beau jeune homme, ce Lambert, là.
Oui. Alors,
qu'elle va installer dans son lit.
Brusquement, je veux dire qu'au contact de la jeunesse, au feu de la jeunesse, elle se réchauffe comme un feu de cheminée. La jeunesse de ce garçon, c'est un feu pétillant qui la révigore.
Et puis c'est ça le destin, à votre avis. Vous parlez d'existence, alors là, comme vous en avez l'habitude, vous laissez aller au mot, l'existence, des gens que le destin réunit, des gens, encore des gens. Pendant un temps, tout se passe bien. Et puis leur relation se grippe, et ça casse d'une manière ou d'une autre, inévitablement, ça casse. Parfois, ils font semblant de rien et continuent de vivre ensemble. Dans ce cas, c'est encore plus grave. Les lézardes qu'on dissimule aux autres et qu'on se cache à soi-même sont plus difficiles à charrier que des cancers. Mais vous êtes quand même très, très observateur. Vous regardez de très près les êtres, alors que vous êtes quand même très obligé à votre écriture,
oui,
c'est-à-dire très prisonnier.
Oui, mais je les regarde de près, c'est indépendant de moi. Je veux dire, c'est pas la volonté. Je me mets pas à sortir une loupe de ma poche et à regarder mes contemporains. C'est plutôt de une captation spontanée et involontaire. Je sais pas. Je les saisis. Je crois. Je saisis la détresse. J'ai toujours dit, mais je rêvais de faire. Je me disais, si je faisais du journalisme, si j'aimerais faire des interviews silencieuses, c'est-à-dire aller voir vivre un mec pendant 48 heures, hein, n'importe qui, et puis écrire. Et je suis sûr que je serrerai la vérité de très près. Rien qu'en l'observant, mieux qu'en lui posant des questions. Parce que les mots trahissent, les mots servent à mentir. Les mots, c'est un paravent. Mais le regard, lui, ne trompe pas. Le regard du type qui s'est photographié est aussi implacable qu'un objectif.
Alors, ces deux personnages... Le premier, Lady M, enfin votre vieille, qui a 85 ans, et puis son jeune Lambert, qui a 20 ans. 25 ans, 60 ans de différence.
Oui.
Vous pensez qu'elle tombe vraiment sous le charme, la vieille dame? Vous pensez qu'elle est vraiment amoureuse? Vous la faites amoureuse, mais là, c'est le romancier qui s'amuse. Elle peut être amoureuse?
Ah oui, moi, je pense qu'elle peut être, je ne sais pas, mais j'ai des souvenirs personnels de dames plus que mûres qui me témoignaient un certain intérêt quand j'étais jeune.
Oui.
Et je peux vous dire que...
Qu'est-ce que vous appelez quel âge? Lorsque vous dites des dames mûres,
ben,
elles avaient quel âge?
Elles avaient passé la cinquantaine.
Ouais. Ben, elles sont très jeunes.
Oui, non, mais à l'époque, c'était moins évident. Mmh. Et puis, elles l'avaient bien dépassé. Mmh. Mais je trouve que, je sais pas, j'étais conscient que ça me faisait franchir des étapes, que je gagnais beaucoup de temps.
Mais il est subjugué, lui, le jeune, hein, par la vieille grand-mère.
Oui, il est, progressivement, elle l'investit. C'est lui qui est fasciné. Elle le domine tellement, elle est tellement fabuleuse. Par exemple, au début, bon, il est incommodé parce que, des détails sordides, elle sent la vieillarde. Je veux dire, il y a des remugles dans sa chambre, bien que ça soit bien entretenu et parfumé, même peut-être parce que ça l'est trop. Ces odeurs cachent misère, vous voyez. Et puis, peu à peu, il ne les sent plus.
Oui. Et ce qui est intéressant, Frédéric Dard, c'est la transformation qui vient chez cette dame. Bon, comme tous ceux qui ont dépassé les 80 ans et qui s'attristent sur leur sort, qui peuvent s'interroger, ou qui ne s'interrogent pas, mais la plupart du temps, quand même, on a le droit de s'inquiéter, votre vieille dame, à un certain moment, décide de ne plus avoir pitié d'elle-même. Et alors, là, elle brûle les dernières secondes de sa vie comme une forcenée. Elle devient folle, elle ne supporte pas qu'on s'apitoie sur elle, sur son âge, sur ses rides, sur son arthrose. Seule sa lucidité suffit.
Oui.
C'est la lucidité qui entre en ligne. Et je crois qu'elle triche.
Elle triche, mais c'est une femme. D'abord, c'est l'histoire, il faut voir le truc. C'est l'histoire d'une tricheuse, en fait. C'est une bonne femme qui a triché, qui triche depuis le début. Si elle pratique l'arnaque, si elle vole tout le monde, si elle fait des coups juteux, des coups... C'est avant tout... Elle a connu des tricheurs, elle s'en explique. Plus on va vers la fin, plus elle le raconte. Vous voyez. Et... Elle s'enfonce, sa lucidité finit par basculer, et elle s'enfonce dans le naufrage de l'âge, c'est-à-dire qu'elle finit par être gâteuse, par avoir des moments de gâtisme, au moment où elle met au point un coup fabuleux. Elle fait un coup terrible, elle prépare un coup terrible à New York, elle emmène son petit giton pour qu'il l'aide, simplement, et le mec se trouve au pied du mur avec elle qui est dans la semoule, et il doit se débrouiller tout seul. Il a envie de panique, il a envie de rentrer, de plier bagages, de dire non, tout ça n'est pas raisonnable. Et devant cette femme, brusquement femme épave, par instant, elle récupère quelquefois. Ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma famille avec quelqu'un qui me touchait de près. Elle a ces résurgences qui font qu'elle conserve son charme pour
quelques
lui.
Quelques étincelles dans la journée.
Elle a des étincelles, ouais. Des moments de lucidité. Et ce gars est amené à réaliser tout seul le coup, mais comme ça en dilettante, pour faire en hommage, à cette... Il lui fait hommage de ce coup.
Mais vous savez, Frédéric Darc, que cela peut faire un très très bon film. Vous y avez pensé ?
Oui, bien sûr, oui, j'y ai pensé parce que ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, mais je vois, et comme c'est un truc qui est quand même très culotté, je veux dire, je ne voudrais pas qu'on
ait... Denise Gray dans La vieille dame.
Je ne crois pas parce que c'est une dame honnête, je veux dire, c'est pas... Il faut...
C'est une comédienne, d'abord.
Oui, non, mais je veux dire que c'est une comédienne. Elle n'a pas...
Je ne compare la femme et le rôle.
Non, mais je veux dire, je ne vois pas Mme Denise Gray, pour qui j'ai la plus grande admiration et le plus profond respect, demandant à un môme de 25 ans de pioter avec elle dans son lit. Je veux dire qu'il y aurait quelque chose de grinçant. J'aimerais mieux une Moreau qui compose et qui se vieillit de 30 ans. Vous comprenez ?
Ah non, moi je pense qu'il faut une vieille dame, une vieille.
Oui, mais
croyez-moi, non pas quelqu'un qui sera jeune. On y croira beaucoup
qui
moins.
Qui se vieillit ?
Qui se vieillit. Oui. Non, on y croira beaucoup.
Je ne sais
moins.
Pas, mais enfin, je crois que le plus difficile, c'est de trouver le réalisateur.
Oui. On pense à qui là tout de suite ? On peut le désigner.
Moi, évidemment, je pense tout de suite à mon copain Mocky, qui est un type, c'est
Jean-Pierre
Mocky.
Mocky. Ben, s'il écoute.
Mocky. Ou alors, c'est un copain. J'ai un bout de fil à lui donner, en lui disant.
Allez, tu fais.
Est-ce que ça t'intéresse ?
Alors un autre. On va se donner trois noms là.
Moi, je vois. Blier, Bertrand Blier.
Oui.
Ça, c'est un.
Oui, ça.
Ça, alors lui.
Ça irait un peu plus loin.
Lui, ça serait quelque chose aussi de.
Et le troisième.
Je ne sais pas, j'en vois.
Bon.
Je sais pas, je vois pas de troisième.
Jean-Pierre Mocky et Bertrand Blier, ça n'est déjà pas si mal. Ah, oui. Mais un rôle comme celui-là, par exemple, si vous aviez dû changer de sexe, vous pensez qu'un homme, un vieillard géniard, aurait été le personnage ? Il n'y a qu'une dame pour tenir un rôle comme celui-là.
Ah oui ?
Les vieillards ne sont pas comme ça. Hommes.
Non. Mais j'ai aussi, enfin, il y a un personnage, un troisième personnage dans mon histoire... qui est un vieillard, qui est le vieux compagnon de cette dame, son compagnon d'arnaque, son compagnon de vie, qui est un vieux diplomate, un diplomate roumain. Et lui aussi, je l'ai connu. C'est un personnage singulier. Il n'avait pas cet âge-là, mais lui aussi avait des petites culottes dans sa Rolls, des petites culottes abandonnées, des épaves de ses bonnes fortunes. Vous voyez
attention, des épaves de ses bonnes fortunes, il faudrait s'interroger. Peut-être qu'il n'avait pas eu de bonnes fortunes, mais il avait acheté les petites culottes
peut-être.
Pour avoir des souvenirs.
Peut-être, peut-être. Peut-être était-ce une façon de frimer, oui, de se raconter des histoires.
En tout cas, il y a celui qui tire les fils de cette action, de cette intrigue, et c'est la vieille qui n'a pas de morale, mais elle est quand même morale au bout du compte.
Elle est morale parce qu'elle a gardé le contact, nous en parlions tout à l'heure, elle a gardé un contact avec Dieu. C'est une bonne femme qui
On peut tout faire si on conserve le contact avec Dieu. Alors.
Oui.
C'est facile
non,
un
non,
peu
non,
ça.
Non, mais je crois, écoutez, un jour, je discutais avec Bruck Berger. Et je lui disais, le père Bruck Berger, vous voyez, ça nous éloigne un peu. Je lui disais, écoutez, Bruck, vous parlez de Dieu dans des termes qui me stupéfient, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour le doute en vous, alors que vous êtes un type assez extravagant. Il n'y a pas de place. Alors il me dit, mais mon pauvre vieux, j'en souffle le premier, j'ai la foi naturelle. Il me dit, j'ai la foi naturelle. Pour moi, depuis le début, il n'y a aucun problème, je ne me suis jamais posé une question.
L'oreille absolue, comme les musiciens.
Tout à fait. Et alors, dans le cas présent, ma vieille a la foi naturelle, elle aussi. Là, s'arrête la ressemblance avec Bruck, elle a la foi naturelle. Et alors, à tous les instants de sa vie, elle est plus cabreuse surtout, elle s'adresse à Dieu. Et elle lui parle en termes familiers. Elle le houspille, elle l'engueule, elle est vraiment, elle le tutoie, bien entendu. Mais elle lui dit, mais j'ai... enfin, il y a des moments où elle lui dit, je ne sais pas si vous avez un slip, Seigneur, mais si vous en mettez un, vous devez savoir que... Elle lui parle comme à un homme.
Ah oui, c'est vrai.
Elle est son confident.
Elle est en paix avec le Seigneur. C'est plus que son confident, c'est son égal.
C'est son égal.
Ah oui.
C'est... Vous voyez, quelque part, c'est son Jules. C'est le mec qu'elle n'a pas eu, dont elle rêvait.
À la manière un peu de Don Camillo, quoi.
Oui, peut-être. Elle, lui parle... elle qui a un langage châtié dans la vie, qui s'exprime bien, sauf quand quelquefois il y a la soupape qui laisse percer les origines. Vous voyez, la fureur, dans ces moments de fureur, elle se dépasse. Mais autrement, elle parle à Dieu d'une façon très triviale.
Mais vous, Frédéric Dard, pour vous-même, vous avez un tout petit peur de la vieillesse. Bon, vous avez
non.
la chance d'avoir une activité. Cette activité,
oui.
vous l'aurez jusqu'au bout.
Ben, si...
Vous avez cette chance. Non, vous avez un privilège.
Oui.
Un privilège d'écrire.
Oui. Oui, oui, non, mais c'en est un dont
je dirais que
même, je suis très
conscient. Même allongé, vous écrivez encore.
Ah oui, 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 ça alors.
Hein?
Oui, même dans le coma, j'écrirai.
Non, je dis allongé dans un lit, c'est-à-dire
oui, oui.
Avec quand même une tête bien pensante.
Ben, je l'espère, enfin, face
parce qu'on peut penser
au ciel que je la garde.
Lorsqu'on écrit sur un sujet comme celui-là, on pense qu'on est un peu personnellement impliqué.
Oui, mais on est toujours impliqué quand on écrit. Enfin, vous le savez, puisque vous écrivez vous aussi des livres, vous savez très bien qu'on est impliqué. On ne peut pas raconter une histoire sans en être le personnage principal.
Alors, vous irez jusqu'à combien de volumes ? 160 romans publiés.
Point d'interrogation. Ça,
par contrat, vous devez en donner 5 par an.
Oui.
20 ans encore, hein ? 30 ans ?
Ah ben,
combien on peut dire encore ?
Vous êtes gentil de faire ce genre de calcul. Ça fait toujours plaisir. Ça ne mange pas de pain, comme dit l'autre.
Mais c'est pas mal, déjà, quoi.
Ah oui, ah non, non, mais j'en espérais pas tant.
Oui.
Ah non, 30 ans, là, vous envoyez le bouchon trop loin.
Vous allez voir votre petit copain Robert Rossel, là.
Ah oui, j'y vais ce soir.
Alors ce soir, il est en transe immédiatement.
Ah, il doit être absolument en transe, ça doit hurler ou... Il doit être dans sa... Enfin, dans tous ses...
Il est déjà en révolution.
Dans tous ses états. Et déjà, je sais ce qui va se passer après le spectacle. Je l'entends vociférer après les comédiens parce qu'ils auront déplacé une chaise de 2 cm ou je ne sais quoi. Et il va faire son checklist après le spectacle. Oui, puis je l'emmènerai dîner quelque part...
C'est beau une amitié comme la vôtre, là, Frédéric Dard, Robert Rossel.
Oui, parce que c'est une amitié, je vous dis, qui dure depuis... Bon, qui date de San Antonio, qui dure depuis 40 ans, quoi.
Oui.
Et, enfin, c'est tout début, Robert. Et on ne s'est jamais quitté. Je veux dire que de temps en temps, il y a des points d'orgue, hein, quand on travaille ensemble, par exemple. Alors là, ça devient brûlant. Mais même quand on reste des années sans rien faire en commun, l'amitié continue en sourdine. Il me téléphone. J'attends toujours. C'est lui. On a pris nos tacitement. Vous voyez, c'est lui qui appelle. Comme c'est lui, moi, on sait où me trouver. Et lui, il est toujours brasse bouillon, à 100 à l'heure. Alors, si je l'appelle, moi, je peux tomber à un moment où mon coup de fil est malvenu. Alors, je le laisse appeler parce que je sais qu'il est en désir de m'entendre quand il m'appelle, au moins.
Merci Frédéric Dard, je recommande ce livre qui paraît aux éditions du Fleuve Noir. C'est le dernier de San Antonio, La vieille qui marchait dans la mer. C'est un grand sujet de réflexion sur la vieillesse, mais quand même tous les amusements d'usage.